Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Zéphirin Quadio.
Bonjour à tous. Dans une demi-heure, vos réactions et vos commentaires sur la crise au FPI, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui se déchire alors que se profile l'élection du nouveau patron du mouvement pour faire barrage à la candidature de Pascal Affine-Guessant. Les proches de Laurent Gbagbo ont annoncé la candidature de leur mentor, aujourd'hui en prison à la CPI. Pascal Affine-Guessant, actuel patron du parti, dénonce des irrégularités dans cette candidature et demande son retrait pur et simple. Dans ce contexte, les débats du Congrès de la mi-décembre s'annonce particulièrement tendue, électrique, avec en toile de fond deux stratégies qui s'opposent, celle de ceux qui entendent s'investir dans le jeu politique et celle de ceux qui ne veulent pas en entendre parler tant que Laurent Gbagbo ne sera pas libéré. Alors jusqu'où ira la fracture au sein du FPI? Cette querelle est-elle salutaire ou suicidaire? Pour en débattre, vous nous rejoignez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord et comme chaque jour, vos questions à la rédaction, direction Avignon, dans le sud de la France. C'est Souma qui est en ligne. Bonjour Souma.
Oui, bonjour Monsieur Quadio. Bonjour à tous les auditeurs et personnels d'RFI. J'ai appris sur RFI que la Miss Honduras a été tuée la semaine dernière dans ce pays qui détient le record mondial d'homicide. Alors, j'aimerais savoir pourquoi le Honduras reste le pays où le taux d'homicide reste le plus élevé? Et ce phénomène a coûté la vie à plus de 60 000 personnes depuis l'année 2000. Alors, est-ce que le gouvernement avait pris des mesures nécessaires pour éradiquer ce phénomène? Si oui, lesquelles? Et pourquoi ces mesures-là n'ont pas bien fonctionné?
Très bien, merci beaucoup Souma pour toutes ces questions. C'est Florencia Valdés qui va vous répondre. Florencia Valdés du service Amérique latine de RFI. Bonjour Florencia.
Bonjour.
Alors, Souma nous le disait, la semaine dernière, Miss Honduras et sa sœur ont été tuées par balle. C'est un drame qui a choqué tout le pays, tout le Honduras. Un pays en proie à une très grande violence. En octobre dernier, par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme du Honduras indiquait que plus de 60 000 personnes avaient été tuées entre 2000 et 2013 dans le pays. Souma nous le rappelait à l'instant. Pays considéré comme le plus violent au monde, avec un taux d'homicide qualifié d'épidémie par l'OMS. Alors, comment peut-on expliquer ce phénomène, Florentia?
Alors, pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord regarder sa situation géographique. Donc, au cœur de l'Amérique centrale, c'est un passage obligé des marchandises illicites venant du Sud et qui sont acheminées vers les États-Unis. Donc, les cartels de la drogue s'y disputent, influencent ces territoires. Et à cela s'ajoute la présence des maras, donc des gangs qui se livrent une guerre sans merci dans les quartiers les plus défavorisés. Et donc, parfois, les pistes se brouillent. Il est difficile de faire la différence entre les deux types d'organisations alliées un jour ennemi le lendemain.
À cela, il faut ajouter aussi un taux de pauvreté plus élevé, un des plus élevés au monde aussi, au Honduras.
Oui, et puis c'est dans un pays de 8 millions d'habitants, 61% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont les plus démunis, notamment les jeunes, qui optent pour l'immigration clandestine ou la délinquance. Et donc, entre règlement de compte et braquage violent, les Honduriens vivent dans un climat d'insécurité insupportable.
Et puis, cette violence, Florencia, pousse de nombreux habitants, il faut le rappeler aussi, à quitter le pays.
On l'a vu il y a quelques mois avec cette crise migratoire aux États-Unis. Des enfants centra-américains non accompagnés, il faut le dire, sont arrivés sur le territoire américain. Et d'après l'Observatoire de la violence hondurien, 54% des jeunes et d'enfants partent parce qu'ils ont peur et ils sont même encouragés par leurs parents.
Mais est-ce que cela suffit, Florencia, à expliquer ce taux alarmant de violence dans le pays?
Non, il faut remonter au coup d'État de 2009. Proche de la gauche bolivienne d'Hugo Chavez, le président Miguel Zelaya souhaite un référendum pour changer la constitution, pour la modifier. Et ses opposants plus conservateurs l'accusent de vouloir entériner sa réélection. Et au Honduras, un président est élu pour un unique mandat de 4 ans. Et donc, s'en suit une grave crise institutionnelle. Le 28 juin 2009, Zelaya est renversé. Des membres de l'armée l'arrêtent chez lui. Pendant 4 mois d'incertitude, nombreuses violations aux droits de l'homme sont dénoncées, ainsi que des disparitions forcées. Le 29 novembre, le conservateur Porfirio Lobo est élu. Les États-Unis et de nombreux pays latino-américains reconnaissent cette élection.
Mais cette élection ne marque pas un retour véritablement au calme dans le pays.
Bien au contraire, les institutions déjà inefficaces en sont sorties affaiblies. 5 ans après, les Honduriens payent encore le prix. Les paysans un peu revendicatifs, la communauté LGBT, les défenseurs de l'environnement et des droits de l'homme, les journalistes et les femmes sont les plus vulnérables. Sous prétexte de garantir l'ordre, tous les excès sont permis. Un climat qui n'est pas du tout favorable aux affaires et qui accentue la pauvreté, c'est un cycle sans fin.
Alors ce phénomène, on le disait, Souma, a coûté la vie à plus de 60 000 personnes depuis 2000. Le gouvernement a-t-il pris des mesures? Si oui, lesquelles et pourquoi sont-elles restées à ce jour inefficaces, Florentia?
Alors on va parler d'une autre élection. Le 26 janvier de cette année, le conservateur Juan Orlando Hernández a succédé à Porfirio Lobo. Comme tous ses prédécesseurs, il a promis de lutter contre la délinquance et la violence. Mais même si le gouvernement a renforcé la présence policière et militaire dans la rue, les résultats ne sont pas brillants. À quoi bon si la corruption au sein de la police est monnaie courante? Selon un rapport de Human Rights Watch, entre 2011 et 2012, 149 personnes ont été victimes de brutalité policière et elles en sont mortes.
Alors, question, que fait la justice, Florentia?
Alors, s'il est si difficile d'enrayer la mécanique du crime, c'est parce que les coupables savent qu'ils jouissent de l'impunité la plus totale. Petits délinquants, parrains du crime organisé ou politiciens véreux, ils sont sûrs de s'en sortir. Et encore faut-il que les proches des victimes puissent dénoncer les crimes.
Mmh. Et que fait la communauté internationale dans ce dossier?
Alors, ce sont surtout les États-Unis qui sont activement présents dans le pays. Le dispositif de l'Oncle Sam s'appelle le Commando Sud, ou Southcom en anglais. Son rôle, c'est de participer à de nombreuses opérations de maintien de l'ordre et de lutte contre le trafic de drogue dans la région et dans Honduras. Mmh. Les États-Unis sont également présents par le biais des aides financières destinées à renforcer l'appareil de sécurité. Des experts américains peuvent aussi faire des missions de consulting. Du côté de l'Union européenne, le Honduras pourra bénéficier de programmes de renforcement de l'état de droit en Amérique latine. Cela s'inscrit dans la stratégie européenne en matière de sécurité citoyenne en Amérique centrale. C'est une stratégie adoptée fin juillet par le Conseil. Mmh. Et l'Europe vient d'accorder une aide au développement de 235 millions d'euros pour la période 2014-2020. Reste à savoir si ces fonds seront investis comme prévu. La corruption, c'est un autre grand problème hondurien.
Et le problème du Honduras, c'est le problème de toute la région aussi. Il faut le rappeler peut-être en quelques mots.
Oui, parce que la pauvreté, l'impunité, violence, immigration forcée et des institutions faibles, c'est l'histoire du Mexique et de l'Amérique centrale. Le Honduras n'est que l'œil du cyclone.
Merci infiniment Florentia Valdés du service Amérique latine d'être passée nous éclairer sur cette question de la violence au Honduras. Merci à vous Souma de nous écouter à Avignon dans le sud de la France. On va repasser par le standard. Violence encore avec Sekouba qui est en ligne de Conakry, c'est en Guinée, pour des questions concernant cette fois les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonjour Sekouba.
Bonjour Zéphirin, bonjour à tous et bienvenue dans la banlieue de Conakry, le QG du leader régional Guinée-Ntakana Zion.
Bienvenue à vous également sur l'antenne de RFI, nous écoutons vos questions.
Oui, j'ai deux questions concernant la violence à l'est de la République démocratique du Congo.
Oui.
La première est la suivante. Qu'est-ce qui explique la faiblesse des forces de sécurité congolaises face à la montée en puissance de ces violences? Existe-t-il un conflit de compétences entre elles et la MONUSCO qui est régulièrement pointée du doigt par la population,
oui,
qui estime être incapable à faire face à ces violences?
D'accord. Merci beaucoup, Sekouba, pour ces questions. C'est Léa Lisa Vesterov, notre correspondante à Kinshasa, qui va vous répondre. Bonjour Léa Lisa.
Bonjour, c'est Sekouba. Bonjour, c'est Koba.
Alors, Léa Lisa, je rappelle qu'un rapport rédigé par 12 députés du parti au pouvoir et de l'opposition qui ont passé 5 jours, là je parle sous votre contrôle, dans la région de Béni, dans l'est du pays, où des massacres ont fait ces dernières semaines plus de 200 morts, et bien ce rapport apporte un nouvel éclairage sur ces événements, notamment sur les défaillances au sein de l'armée congolaise dans la région. Alors, comment peut-on expliquer la faiblesse des forces de sécurité face à ces violences dans la région?
Eh bien, c'est difficile, hein, en effet, à expliquer, puisque l'armée congolaise est depuis des mois déployée dans cette zone hein, où ont eu lieu ces massacres des dernières semaines. Oui. Et les tueries ont, pour la plupart, sauf la dernière, eu lieu à quelques kilomètres à peine de postes de contrôle de l'armée congolaise. Alors, comment ces massacres nocturnes ont-ils pu échapper à leur contrôle? C'est toute la question. L'armée congolaise, dans un premier temps, avançait qu'une partie de ses troupes était en fait occupée sur le front, plus loin dans la forêt, et que donc les assaillants ont profité de la faiblesse de leur présence dans les environs de Beni pour attaquer. En fait, quand on les regarde de plus près, c'est en effet plus compliqué que ça. Un exemple, trois attaques, dont une sur la mission de l'ONU au Congo, ont eu lieu dans le même petit village situé à 7 km du centre de Beni. Une vingtaine de militaires sont déployés dans ce petit village en permanence. Et pour deux attaques au moins, l'armée congolaise n'est pas intervenue ou alors beaucoup trop tard. Alors, vous le disiez, il y a ce rapport hein, de 12 députés de la majorité et de l'opposition, ces députés qui se sont rendus sur place. Ce rapport a été débattu à l'Assemblée nationale la semaine dernière, et ce rapport va mettre en lumière hein, pour la première fois deux possibles défaillances de l'armée congolaise. Je cite quelques exemples. Hein, à Beni, un commandant de la police, par exemple, aurait fermé les deux numéros qui avaient été mis en place pour que la population puisse alerter la police en cas d'attaque. Résultat, impossible de donner l'alerte. Un autre exemple, à Iringeti, une attaque qui a fait 23 morts le 16 octobre dernier, et bien là, c'est une dispute interne entre deux unités de l'armée congolaise qui a retardé leur intervention alors qu'un massacre était en cours à 500 mètres de là. Enfin, plus grave, hein, ces députés avancent qu'un major prévenu qu'une tuerie était en cours aurait menacé, je cite, de fusiller tout élément de son unité qui oserait intervenir. Cette nuit-là, 30 personnes ont été tuées. Donc vous le voyez, ce sont des accusations graves qui mettent en lumière, en effet, des défaillances. Alors, comment les expliquer? Y aurait-il une complicité de certains éléments de l'armée avec ces assaillants? Le rapport ne répond pas du tout à cette question, mais réclame une commission d'enquête parlementaire à voir maintenant si le gouvernement va réagir et mettre en place cette commission d'enquête. Mais ce rapport, clairement, montre qu'il y a potentiellement des défaillances graves.
Alors, y a-t-il, c'était l'autre point que soulevait Sekouba, y a-t-il un conflit de compétences entre l'armée congolaise et la MONUSCO?
Bon, en principe, non. Hein. L'armée a pour devoir de sécuriser la zone et tout le pays, puisque c'est donc l'armée congolaise. Oui. La mission de l'ONU au Congo, elle a pour mission de protéger les civils et sa brigade d'intervention, donc à plus de 2000 hommes, ont la possibilité d'attaquer des groupes armés seuls sans l'armée congolaise. Mais en réalité, là aussi, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a par moments des difficultés de communication entre l'armée et la mission de l'ONU au Congo. Et donc là aussi, de possibles défaillances du côté des casques bleus pour ce qui est d'assurer la protection de la population. Et puis aujourd'hui, cette, en effet, coopération n'est pas tout le temps évidente. Oui. Un exemple, des patrouilles communes hein, entre l'armée congolaise et la MONUSCO ont été lancées pour des raisons de sécurité. Mais du coup, le fait que la MONUSCO, les casques bleus et l'armée congolaise patrouillent ensemble, eh bien, ça complique aussi les choses. Parce que s'il devait y avoir des problèmes de complicité, par exemple, de l'armée congolaise, eh bien, l'ONU perd finalement en indépendance avec ses patrouilles pour lesquelles l'armée, finalement, décide de l'itinéraire. D'un autre côté, les casques bleus, bien évidemment, ont besoin de l'armée qui connaît beaucoup mieux le terrain et l'ensemble de la zone, besoin d'accéder aussi aux renseignements que collectent les autorités, d'où l'importance hein, que les deux unités travaillent main dans la main, ce qui n'a pas forcément été le cas ces dernières semaines. Alors pour ce qui est d'assurer la sécurité dans la zone, hein, puisque les massacres continuent et rien ne garantit qu'il ne va pas y avoir, en avoir d'autres, la MONUSCO dit qu'elle a multiplié ses patrouilles ces dernières semaines et renforcé sa présence sur place. Mais au total, ça fait à peine un peu plus de 500 hommes, donc ce ne sera certainement pas suffisant pour régler le problème de ces attaques mystérieuses. La zone est couverte d'une forêt extrêmement dense. 500 hommes vont difficilement pouvoir patrouiller sur toute la zone et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de nouveau massacre, sachant qu'un grand nombre de ces patrouilles ont lieu sur la route principale. Donc vous voyez tout un tas de facteurs et la nécessité sans doute de prendre des mesures de sécurité importantes dans les prochaines semaines pour régler le problème.
Voilà, c'est Kouba, ce qu'on pouvait répondre à vos deux questions très, très pertinentes. Merci à vous, Léa Lisa Vesterov, d'avoir été avec nous pour cet éclairage. Merci. On repasse par le standard 09-693-693-70. Abdallah nous appelle de la région parisienne. Bonjour Abdallah, j'ai pas écorché votre nom.
Non, c'est très bien, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Vous avez des questions sur la disparition d'un témoin dans l'enquête de la justice française sur l'attentat contre l'avion de l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana. C'était en 1994. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Donc voilà, Émile Gafferita a disparu dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est un témoin de plus qui disparaît dans le cadre de cette enquête. Oui. Et j'aimerais savoir, dans un premier temps,
Quels sont les éléments dont on dispose
Est-ce qu'on dispose de nouvelles informations concernant sa disparition?
Oui.
Ensuite, j'aimerais savoir qu'est-ce que son témoignage avait de capital pour que les juges décident de rouvrir l'enquête. Mmh. Et puis, j'aimerais aussi savoir pourquoi il n'a pas été mis sous une plus haute protection alors qu'on savait qu'il était exposé.
Oui, très bien. Merci beaucoup, Abdallah, pour toutes ces questions. C'est Sonia Rollet du Service Afrique qui va vous répondre. Bonjour, Sonia.
Bonjour.
Alors, qui est ce témoin qui, je le rappelle, a disparu juste avant d'être entendu par les deux juges français en charge du dossier?
En tout cas, il avait reçu sa convocation le jour de sa disparition, ce qui fait évidemment poser beaucoup de questions. Mmh. Alors, c'est un sergent, enfin, c'est le grade le plus élevé qu'il avait atteint dans l'armée rwandaise. Oui. Il a passé toute sa vie comme escorte. Émile Gafferita, c'est son nom. Et donc, ce qu'il prétendait, puisque pour l'instant, jusqu'à présent, puisqu'il a disparu, on ne sait pas s'il va pouvoir être entendu par la justice française. Oui. Ce qu'il prétendait, c'est donc qu'il avait convoyé les missiles les missiles qui auraient abattu l'avion de l'ancien président Habyarimana, qu'il aurait convoyé ces missiles jusqu'au CND, qui au moment, donc le 6 avril et dans les jours qui ont précédé, était occupé par le FPR suite aux accords d'Arusha. C'était le quartier général en fait du FPR, de l'APR, de l'armée patriotique rwandaise, la rébellion au cœur de Kigali. Donc un témoignage somme toute de finalement un militaire ou un rebelle qui était d'un niveau hiérarchique assez faible, mais qui prétendait donc avoir participé à cet attentat. Et donc c'est tout ce qu'on sait, puisque c'est tout ce qu'il y a pour l'instant au dossier, puisque c'était le sens de la lettre qu'il avait envoyée au juge d'instruction pour être entendu, et on n'a pas beaucoup plus d'éléments puisqu'il n'y a pas eu d'audition. Donc
alors, qu'est-ce que son témoignage avait de si capital finalement dans ce dossier?
Mais ça avait quelque chose de capital dans le sens où en fait déjà bon, c'est plutôt parce que le juge a décidé de rouvrir l'instruction. L'instruction était close depuis juillet, et donc normalement il ne devait pas y avoir de nouveaux actes judiciaires. Il fallait qu'il y ait soit des nouveaux éléments demandés par les parties, soit de nouvelles preuves ou de nouveaux témoins apportés pour qu'ils puissent rouvrir l'instruction. Et donc le juge a quand même fait ce choix d'entendre ce témoin. Donc ça c'est déjà un premier signe qu'il lui-même trouvait que ce témoignage avait un intérêt. Maintenant, évidemment, dans le cadre de cette instruction, on assiste en fait à une dichotomie, on va dire, des preuves, puisque d'un côté, on a une expertise qui explique qu'en fait, les tirs sont partis de Kanombé ou de ses environs. Oui. Kanombé, c'était le camp de l'armée, de la garde présidentielle à l'époque du génocide, donc de la garde présidentielle du Juvénal Habyarimana, et pas d'un endroit a priori où le FPR aurait pu tirer. Donc ça c'est Masaka par exemple, où il y avait un autre point de départ de tir possible, et l'expertise avait dit non, c'est plutôt vers Kanombé. Par contre, au niveau des témoignages, il y a beaucoup de témoignages qui laisse penser que ça pourrait être donc la piste du FPR, avec tous les problèmes de contradiction qu'il peut y avoir aussi dans ces témoignages, etc. Et donc c'était un témoignage de plus, mais pour une fois, j'allais dire, il y a eu d'autres cas par le passé, mais des témoins qui sont plus là aujourd'hui. Mais voilà, un témoin qui au moins s'accusait lui-même d'y avoir participé.
Alors justement, pourquoi ce témoin qui semblait important, en tout cas dans l'évolution du dossier, ne bénéficiait pas de mesures de protection?
Parce qu'en fait, il n'y a pas de protection en France. Il n'y a pas du tout de protection. D'accord. La seule protection, ça pouvait être l'anonymat, qui est prévu par le code de procédure pénale. Et malheureusement, en fait, dans ce cas présent, le juge a en tout cas estimé que ce n'était pas possible d'appliquer cette procédure, puisque il fallait que le témoin soit identifiable et puisse donner des détails sur sa participation pour que le témoignage soit crédible et ait un intérêt. Si on avait tout biffé de tout ce qui pouvait l'identifier, ça aurait été problématique.
Voilà, Abdallah, quelques explications de Sonia Rollet qui, je l'espère, vous conviennent. Merci en tout cas de votre appel. C'est la fin de cette première partie. Nous nous retrouvons dans 10 minutes pour la seconde partie et notre débat. À tout de suite.